Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Bonjour à tous et toutes et bonne année 2018. Bienvenue dans cet épisode numéro 42 d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio.
Next one.
Téléportez-vous confortablement sur votre canapé, enfilez vos chaussons en moumoute virtuelle et mettez vos lentilles télépathiques. On plonge cette semaine dans la quatrième saison de Black Mirror. Et on se posera cette question, Black Mirror est-elle encore révolutionnaire ou totalement has-been ? Ici Marie Turcante, Business Insider, prête à découvrir lequel de nos trois journalistes est en fait un cyborg qui utilise le deep learning pour fournir des critiques de qualité. J'ai nommé Jean-Maxime Renaud d'Allociné.
Salut Marie.
Pierre Langlais de Télérama, salut.
Bonsoir Marie.
Et Émilie Semiramotte de Vanity Fair.
Et Glamour, salut.
Merci Émilie de remplacer au pied levé, et c'est le cas de le dire, Asma El Mardi, immobilisée après une vilaine fracture, on pense fort à elle. Alors cher public, chers auditeurs, à moins que vous ne viviez sans connexion Wi-Fi, c'est-à-dire soit dans une grotte, soit dans un métro parisien, vous n'avez pas pu passer à côté de cette grande nouvelle. Netflix a mis en ligne ce 29 décembre 6 nouveaux épisodes de la série d'anticipation la plus hype du moment, Black Mirror, aussi connue sous le nom de « Ça alors, qu'est-ce que ça fait réfléchir ?» Chers critiques, je vous ai réunis autour de cette table pour répondre à une question très simple et pas du tout de mauvaise foi. Black Mirror a-t-elle été écrite par Ted Daron ? En somme, entre la critique des applis de rencontre, de la notation à 5 étoiles, des jeux vidéo en ligne, des dérives de la neuroscience, de Twitter, Black Mirror serait-elle devenue trop moralisatrice ? La série mérite-t-elle encore son succès ? On commence avec un petit bilan de cette saison 4. Les plus attentifs auront reconnu Hang the DJ, la chanson du même nom de l'épisode qui a probablement fait le plus parler de lui. Alors amis critiques, est-ce que c'est vous aussi votre épisode préféré ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4 ? À vous les micros. Jean-Maxime.
Au risque de ne pas être original, c'est mon épisode préféré. Hang the DJ. Bah justement, une petite note positive dans une saison encore très sombre, ça m'a plu. D'ailleurs, une note positive dans l'ensemble de la série, c'était vraiment le premier épisode fun aussi, beaucoup dans la comédie. Et sur l'ensemble de la saison, moi je suis plutôt mitigé. À la fois, je la trouve pas meilleure que les précédentes, mais pas moins bonne non plus. À peu près au même niveau que la troisième en tout cas.
Une saison plus sombre, Émilie, c'est ce que tu as ressenti aussi ?
Non, moi je dirais plutôt au contraire moins sombre. Et assez inégale, plus inégale que les précédentes. Et mon coup de cœur, ce serait plus... Enfin, il y a Hang the DJ, mais aussi USS McAllister. Je trouve que c'était une belle entrée en matière, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et une détestation totale pour Crocodile, qui pour moi est raté en tout point. Mais bon, c'est un bon retour, malgré quelques défauts.
Attends bien, c'est mon préféré. Pierre Langlais, un bilan de cette saison ?
Non, globalement, un poil inférieur, je trouve. Alors après, faudrait la remettre en circonstance avec la 3. Troisième, qui était peut-être pas beaucoup mieux. J'ai tendance à préférer le pré-Netflix, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Hang the DJ, effectivement, un chouette épisode qui aurait presque pu être plus court. Non, moi, finalement, celui que j'ai préféré, c'est USS Callister, qui est, je trouve, peut-être le plus surprenant, en fait. C'est celui, je m'attendais pas à ça du tout. On va peut-être, alors, je sais pas à quel point on va spoiler, hein, peut-être prévenir nos amis, auditeurs. Je m'attendais à une sorte de parodie un peu étrange, très geek et très référencée de Star Trek. Et c'est en fait tout autre chose. Le Star Trek est un prétexte et j'ai trouvé ça vraiment très malin. Et je me suis pris au jeu. Ceci étant dit, moi je suis plutôt d'accord avec Émilie. Elle est beaucoup plus légère, je la trouve, cette saison. Il n'y a qu'un épisode qui m'a laissé un un peu glacé, c'est Metalhead. Les autres
l'épisode
sont
en noir et blanc.
Voilà, exactement. Les autres sont, à mon sens, pas joyeux, mais presque.
Mais alors, faut qu'on réussisse à expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut trouver une saison trop sombre et à la fois trop légère. Enfin, comment est-ce que on arrive à
un peu moins envie de te pendre à la fin de la saison.
Oui, alors du coup, pourquoi Jean-Maxime considère que c'est
Je l'ai pas trouvé trop sombre. Je l'ai trouvé aussi sombre que les précédentes. Quand on regarde bien, il y a que USS Callister, et Hank the DJ qui sont à peu près positifs si on va vraiment chercher, alors que tous les autres sont vraiment, notamment Black Museum qui est très violent, sont vraiment sombres.
Il y a une fin satisfaisante.
Oui,
en soi,
il y a
Black
une
Museum.
Résolution en fait. Il y a quelque chose de jouissif à la fin quand même. Alors c'est terrible, c'est violent, c'est cruel, mais il y a quand même quelque chose de la vengeance, quoi. Et comme dans Archangel, c'est une fin qui est difficile, mais c'est une libération. Donc il y a quand même, c'est pas l'habitude que j'avais moi à regarder Black Mirror. À la fin, j'étais sidéré quand je finissais un épisode et en mode merde, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi. Glacé. Et il y a, je trouve, plutôt de l'espoir dans un monde de merde, mais de l'espoir quand même dans cette saison 4.
D'un côté, on pourrait dire que du coup, ça peut être raté pour les amateurs de Black Mirror qui aimaient justement ce côté nouvelle, un peu chair de poule, où les deux dernières pages, il y a un gros retournement de situation qui fait qu'on reste un peu estomaqué et sur sa fin, mais c'est ça qui fait la force de l'épisode.
Au contraire, on peut se réjouir de voir qu'elle reste pas enfermée dans un schéma préétabli, qu'elle évolue et qu'elle essaye de nous surprendre, au contraire, à chaque saison.
C'est une saison plus féminine aussi, il y a quasiment que des héroïnes à chaque épisode. Alors je sais pas si le côté plus doux de la saison vient de là.
Jean-Max.
Où est-ce qu'on va tout de suite dans les
clichés.
Pour les
On va parler des femmes magnifiques dans un prochain thème, et du coup ça tombe bien, parlons des thèmes récurrents et des petites marottes de Charlie Brooker.
Lieutenant Cole. Welcome aboard. We have a new member of the team.
We meet again, Captain Daly!
We're trapped!
Jesus. Alors ça c'est un extrait de USS Callister, donc ça c'est le moment un peu plus drôle où on a l'impression qu'on est dans une parodie de Star Trek, mais on va tout de suite basculer dans quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Charlie Brooker, et c'est est-ce que les algorithmes ont des sentiments. On arrive dans la deuxième partie de l'épisode avec des personnages qui sont clonés, en tout cas leur version d'eux-mêmes devient un code qui est rentré dans un jeu virtuel, et à ce moment-là on se demande est-ce que le fait que le personnage les torture, est-ce que c'est mal, est-ce que ça c'est pas grave parce que c'est des bouts de code. Ça c'est quand même un thème qui revient chez Charlie Brooker depuis le début, vraiment depuis les premiers épisodes, l'épisode du clonage dans la saison 2 où il y a un homme qui dont la toute la mémoire est virtuelle et mise en ligne dans un clone. Dans l'épisode de Noël, il y a également ça, il y a les algorithmes qui retrouvent coincés, il y a une question d'éternité en fait, et il y a une question de est-ce que les algorithmes subissent, est-ce que c'est un crime en fait de faire subir de la torture à des algorithmes? Qu'en pensez-vous? Je vous vois sourire.
Il y a la suite aussi dans San Junipero aussi, on a dans cette continuité. Et effectivement, c'est un vieux thème récurrent de l'ASF, c'est une obsession, le clonage numérique. Et ça participe au courant du transhumanisme de défier la mortalité et de effectivement pouvoir se sauvegarder et conquérir une vie éternelle via le codage numérique. Je pense que Charlie Brooker, il a un parti pris évident dès le début. C'est oui, c'est mal de torturer des clones numériques. On n'a pas le droit d'enfermer des gens, de leur priver de leur corps, de leur liberté individuelle. Et effectivement, il va dans ce sens-là vers les courants des dirigeants de Google aussi, qui sont très très branchés dans ce versant-là, quoi.
Moi, je pense que ça va au-delà de ça. C'est une réflexion de fond sur ce qui nous unit, nous, à ces codes. C'est-à-dire, en gros, c'est pas seulement est-ce qu'on peut torturer, faire du mal, ou est-ce que les codes ont des sentiments. C'est aussi est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes condamnés à devenir des formes de codes. Et du coup, où est notre humanité là-dedans? Moi, ce qui me touche, et ce qui peut me faire très peur ou qui peut être émouvant. D'ailleurs, c'est peut-être aussi une des faiblesses de cette saison. J'étais quand même peut-être moins ému que j'ai pu l'être par le passé, notamment San Junipero, enfin, qui est un épisode un petit peu à part. C'est de me demander, en fait, si on n'est pas en train de me montrer mon futur et si je ne suis pas moi déjà, c'est un peu le délire à la Matrix, hein, mais si je ne suis pas déjà virtuel et si finalement je ne m'inscris pas déjà là-dedans. Et finalement, Charlie Brooker ne fait que prolonger notre quotidien. C'est le côté fascinant de Black Mirror. Dire pourquoi est-ce que quand je me fais agresser sur Twitter, je le prends intimement. C'est que un double numérique. C'est que c'est pas concret. C'est pas quelqu'un qui m'a frappé. Donc ça questionne toutes ces choses-là dans la société contemporaine qui sont très présentes.
Ouais, toi, tu pars du principe que Twitter est ton double numérique. Je pense que beaucoup d'autres gens partent du principe que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Et que justement, on n'est pas du tout dans Charlie Brooker extrapole beaucoup plus loin qu'il n'est obligé ne serait obligé de le faire. Et là, on peut rentrer un petit peu déjà dans la critique, le principe de toujours aller au pire sans vraiment prendre le temps de nuancer le propos. Je pense à Black Museum, par exemple, la torture d'un homme en hologramme qui est mise en avant comme quelque chose d'absolument affreux sans avoir aucune contrepartie. Je dis pas qu'on peut pas essayer d'aller dans le négatif et peut-être un petit peu too much dans ce côté-là. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Maxime?
C'est vrai que finalement, il y a quasiment rien dans la série, quelle que soit la saison, qui soit vraiment crédible. On se dit, ça peut vraiment arriver. Celui qui se rapproche le plus, à mon sens, c'est Nosedive, le premier de la saison 3, où là, on se retrouvait avec des personnages qui se notaient tous les uns les autres. On est déjà un peu dans cette société-là, avec Uber, avec les applis de rencontre, etc., où on note déjà un peu les gens.
Dans l'épisode, on avait besoin d'une certaine note pour avoir accès au logement, avoir accès à la sécurité sociale. Ça allait quand même pas mal plus loin.
C'est vrai, mais on en est quand même vraiment pas loin. Alors que les autres, on reste quand même loin de notre réalité, quoi.
Je crois qu'en fait, c'est là que j'en reviens à ce qu'on disait avant. C'est pas tant une mise en scène concrète du possible qu'une mise en scène concrète du possible de nos émotions et de ce qu'on peut ressentir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en se projetant un peu et en se disant qu'est-ce que ça va devenir. Et c'est vrai que la tentation est grande, mais je trouve qu'elle est moins grande dans cette saison 4 puisque je trouve qu'il y a un peu plus d'espoir de se dire en fait qu'est-ce qui va arriver, le pire, forcément il va arriver le pire. Et c'est le démiurge qui est le scénariste est forcément très tenté de se dire je vais tous les faire crever dans d'affreuses souffrances. Et c'est vrai que Metalhead, c'est un truc qui est d'une cruauté absolue, mais c'est aussi pour ça que c'est jouissif.
T'arrives à raconter le pitch en une seconde?
Ah, mais c'est un peu plus simple, hein. C'est des gens poursuivis par des chiens robots qui les butent tous, quoi. Enfin voilà, c'est un jeu de massacre littéralement, et il y a aucune explication, et c'est ça qui est terrifiant.
Pour parler
priori,
un peu de
on est dans un monde post-apocalyptique dans Metalhead, et il reste plus, enfin c'est les machines qui contrôlent, qui ont pris qui dominent le monde, grosso modo.
Je trouve que ça c'est un bon exemple pour parler un tout petit peu de la réalisation. Il y a cet épisode, il est en noir et blanc, il est très
David Slade, pour donner le nom du réel.
Et justement, il est propre pour éviter, parce qu'il est très violent au final.
Il est court, il est tendu, il est efficace, il y a peu de dialogue.
Est-ce qu'en termes de réalisation, vous sentez plus d'efforts dans cette saison 4? Des choses qui vous ont plus touché?
Il y a des noms, hein. Il y a des noms à la réal. Il y a Jodie Foster qui fait un épisode. Il y a Tim Van Patten qui a un grand nom de qui fait Hank the Dingé, qui a un grand nom de la réalisation télé. Et donc David Slade qui fait Metalhead, qui est un des grands esthéticiens de la série. Il a fait Hannibal notamment et American Gods. Et c'est donc je trouve. Que, alors attention de ne pas tomber dans ce schéma-là, mais qu'ils se permettent, comme c'est une anthologie avec des épisodes isolés, en gros, c'est viens t'éclater, mon gars, je te file les clés et je vais pouvoir innover vraiment visuellement, mais c'est assez jouissif par ailleurs.
Vous parliez, Monsieur Reynaud, des femmes.
Pardon.
Abordons ce sujet. Alors pour toi, la saison 4 est plus féminine.
Oui, il y a cet épisode de Jodie Foster, elle l'a réalisé, il y a des personnages. Quasiment que des personnages féminins dans cet épisode-là. Alors que dans les saisons précédentes, finalement, il n'y avait pas tant de personnages féminins mis autant en avant.
À part San Junipero.
Ouais.
Ah non, moi je me rappelle de pas mal d'épisodes. Alors après, j'ai peut-être fait un tri, mais. Ouais, non, mais même dans les séries encore avant, alors là, je vais me planter sur le nom des épisodes. Il y avait l'épisode où il y a cette veuve qui met un double de son mari. Oui. Il y avait cet épisode absolument terrifiant qui est un de mes préférés où ça tourne en boucle. Enfin voilà, où c'est une torture, là encore, hein, encore. Il est sans doute sadique ce Charlie Brooker. Encore une histoire de torture.
Émilie, toi,
Là, bah, en fait, dans cette saison, on voit des protagonistes femmes dans chaque épisode, soit seules, qui portent l'intrigue seules, soit accompagnées avec un homme. Et ce qu'elles ont tout en commun, c'est de vouloir absolument contrôler leur destinée. Il y a une relation entre ces femmes et le pouvoir. Que ce soit le pouvoir sur autrui, ou reconquérir leur propre pouvoir, ou défier un système, il est vraiment question pour elles d'être aux commandes. Et c'est vraiment un point commun à chaque épisode de cette saison.
Du coup, tu trouves qu'ils sont plus doux, c'est...
Non, je ne trouve pas plus doux. Non, pour le coup, je ne vais pas faire de lien, désolée, entre le fait qu'il y ait plus de femmes et que la série soit moins sombre sur cette saison-là. Parce qu'on a des personnages féminins qui sont assez horribles. Quoi. La mère de Archangel, elle est quand même assez proche de la monstruosité. Et l'héroïne de Crocodile aussi est juste abjecte. Et voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui sont absolument abominables et qu'on adore détester.
Je suis en train d'essayer de chercher, mais malheureusement, je vais pas avoir le temps. Mais il y a quand même une productrice, la productrice de Black Mirror, travaille très. Voilà, c'est pas seulement une série de bonhommes. Je veux dire, il est pas tout seul à faire sa série, notre ami Charlie Brooker.
Alors, moi, je me demandais aussi. À qui parle Black Mirror aujourd'hui? Quand on regarde l'épisode de Black Museum, c'est bourré de références aux autres épisodes de Black Mirror. Si vous allez sur Reddit, il y a des gens qui tiennent des comptes de toutes les petites références qu'il y a dans tous les épisodes de la saison 3 et saison 4, tous les easter eggs comme on les appelle. Est-ce que ça fait pas un tout petit peu entre soi? Est-ce que la série commence pas un tout petit peu à parler aux mêmes personnes, à créer une communauté de fans un peu fermée et qui serait du coup qui est un petit plaisir coupable qu'on partage entre fans de Black Mirror?
J'espère pas. Ça n'aurait pas de sens. C'est une anthologie. À chaque épisode, c'est une histoire différente. Comment enfermer les gens dans un truc où c'est jamais la même histoire?
Avec ce lien, d'enfermer un univers là, justement. D'enfermer.
J'espère pas. Mais c'est peut-être le côté plaid de chaussons rembourrés et thermos de Netflix, quoi. C'est peut-être justement parce que les gens sont peut-être ont l'impression de partager quelque chose de plus immédiat que ça pouvait être le cas avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on joue à ce jeu-là. Ou alors c'est Charlie Brooker qui a pris le melon et qui du coup se fait des références tout le temps pour s'auto-complémenter. J'ai pas l'impression.
Il y a des références beaucoup quand même dans l'épisode. Il y a plein de références aux épisodes précédents.
Il y a l'hôpital Saint-Juniper, si je dis pas de bêtises.
Il y a l'épisode c'est l'hôpital Saint-Juniper. Et en même temps, il s'auto-référence même jusque dans le format, parce que dans l'épisode, il fait une anthologie dans l'autologie. Donc c'est là pour le coup, c'est vraiment fait pour les fans de Black Mirror et moins pour les néophytes.
Et on peut apprécier sans voir tous les clins d'œil finalement. Oui. Ça empêche jamais le visionnage.
Elle a toujours été un peu méta, cette série. Moi, j'ai l'impression qu'elle a toujours réfléchi sur les fonctions de la narration et sur de comment on pouvait jouer avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus flagrant parce que comme c'est devenu un énorme succès, alors qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose de plus confidentiel, on le voit. Moi, ça m'a pas dérangé, personnellement.
A priori, c'est un épisode qui inscrit vraiment tous les épisodes de Black Mirror dans un seul et même univers.
Prétentieux, mais pas forcément, à mon avis, enfermant les gens. Enfin, c'est mon point de vue.
Justement, pour parler des changements entre la saison 4 et la saison 3 et la saison 4, le jour de la diffusion de Black Mirror, le 29 décembre, Netflix a mis en ligne un petit trailer extrêmement anxiogène et j'aimerais en parler avec vous.
What a wonderful year.
A new chapter in human history.
So connected.
Connect the brain to the cloud.
So progressive.
Just a few mouse clicks and tap, tap, tap.
There's only one way to say goodbye to 2017.
Alors c'est un trailer extrêmement épileptique avec beaucoup de robots, de fusées qui explosent, de Steve Bannon. On ne sait pas pourquoi il est là, mais on l'a mis là parce que 2017 c'était mal et apparemment Charlie Brooker avait tout prévu, même Steve Bannon. Donc est-ce que là on n'a pas touché un peu aux limites de la hype de Black Mirror qui serait ah bah ouais mais ce mec il a vraiment tout compris et maintenant on va vraiment plus utiliser les technologies de la même manière parce qu'on connaît tous les dangers et ça va être terrible.
Est-ce que c'est tant Charlie Brooker qui fait « Ouais, je suis trop fort, j'arrive à tout prédire et regardez, j'avais prévu l'élection de Trump 3 ans en avance » ou est-ce que c'est pas juste Netflix qui se dort la pilule et qui se vante avec sa nouvelle série british qu'elle avait pas su inventer toute seule? Je pense que la réponse est plutôt l'option 2. Quoi.
Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté méta que ça peut sous-entendre. Pourquoi pas nous faire un épisode dans le passé où Trump serait un cauchemar du futur? Enfin, il y a plein de pistes. De toute façon, c'est sans fin, hein, Black Mirror. Le problème, c'est de pas tourner en rond. Après, peut-être qu'on en revient à ce que je disais. Peut-être que chez Charlie Brooker aussi, qui forcément, il y a de quoi prendre la grosse tête, hein, parce que ça devient un vrai événement, une nouvelle saison de Black Mirror. De là à penser qu'il se prend pour le Messie et qu'il a tout deviné à l'avance, j'espère pas.
Si vous avez l'impression que Netflix a a cassé un joli jouet que la BBC avait créé donc en 2011 déjà, en faisant devenir une grosse production.
Channel 4, pardon.
Ou est-ce qu'ils réussissent à sublimer en donnant plus de moyens à Charlie et à son équipe pour développer ses idées à lui? Est-ce que au final Netflix est un ange gardien tombé du ciel ou est-ce qu'il est en train de casser quelque chose qui au final se tenait bien parce que c'était des petits épisodes assez courts, enfin espacés dans le temps et qu'on attendait avec impatience?
Il y a toujours des petits épisodes.
Il y en a 6 par an quand même.
Mais il y a des épisodes plus intimes et des épisodes avec plus de moyens. Moi, je trouve qu'on aurait vite atteint les limites si on était resté sur Channel 4 et ses budgets, en fait. Là, ils peuvent se permettre de faire des choses assez folles.
Ouais, on aurait pas pu. Mystère, avec les moyens de Channel 4, c'était plus compliqué, je pense.
Soit ils le faisaient, c'était pas terrible, soit. Voilà.
Doctor Who, ils font des trucs moches, c'est pas grave, ils l'ont fait pareil. Hein.
C'est vrai. Pour le coup. Et puis, USS Callister, c'est un gros kiff pour le coup. Les autres épisodes, je les trouve pas mirobolants en termes de production.
Il y a quand même un exercice de style à chaque fois, maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Chaque épisode a sa propre identité, alors que sur les premières saisons, ils étaient tous à peu près. Équivalent. Mmh.
Moi, j'aime bien quand même le fait qu'ils continuent à tourner à la fois en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, en gros, ils ont gardé un pied en Angleterre et bon, il y a quelques têtes connues, mais c'est pas un casting de stars, quoi. Ouais. Vu la popularité de Black Mirror, ça pourrait être la ruée des stars. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez sympathique, c'est que c'est finalement la méga star, c'est Jodie Foster, elle est derrière la caméra, plutôt que devant.
Ouais, mais tu peux là aussi jouer au jeu de lui, je l'ai vu dans une autre série, lui, je l'ai vu dans une autre série.
Mais ça, aujourd'hui, on peut le faire avec beaucoup de séries. Black Mirror pourrait se sortir des stars, j'en suis sûr.
Oui. Comme John Hamm et Una Chaplin qui sont sortis à l'épisode de Noël.
Il y a eu l'épisode spécial où ils ont sorti John Hamm qui, après tout, depuis Mad Men, n'a pas fait grand-chose de très visible. Non, moi, je trouve qu'elle garde quand même que Netflix ne l'a pas détruit. Et puis, par ailleurs, 6 épisodes par an, tant mieux, vous n'êtes pas obligé de tous les bouffer en un week-end. Vous pouvez les regarder patiemment.
On en vient à la question binge-watching.
6 épisodes par an, ça fait pas tant que ça. Hein. On peut prendre son temps.
C'est trop.
C'est trop 6 d'affilée.
Ouais, c'est trop. Par rapport à je suis à rabat, je vais au service, puisque tout le monde est d'accord. Puisqu'on était à 3 épisodes par saison auparavant. Et puis, je pense que les saisons, elles arrivaient moins régulièrement. Il y avait quoi, 18 mois, 2 ans de distance entre les
Sherlock.
Deux. C'était
comme Sherlock. C'était 2011-2013, 2014 et ensuite 2015.
Là, du coup, avec l'arrivée sur Netflix, on rentre dans une espèce de logique un peu fordiste, une logique de production industrielle où il faut arriver dans les temps avec son quota, il faut servir le client, quoi. Et je trouve que ça se sent quand même. On le remarque avec cette deuxième saison de reboot Netflix. Je trouve que ça sent à l'arrivée qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus bâclés, qui sont peut-être moins chiadés que ce que ça aurait pu donner si on était resté sur de l'autre côté de l'Atlantique.
D'ailleurs, au début, elle était présentée comme une seule et même saison, si je dis pas de bêtises. Ouais. Nous, au début, Netflix nous avait dit elle est en deux parties, et finalement, c'est devenu deux saisons différentes, mais ils nous avaient vendu une saison de 12 épisodes comme ça, vraiment une grosse livraison.
Ils vous ont dupé.
Voilà, mais bon, après, il y a eu le temps entre les deux bouts, donc.
Est-ce que ça devient un crime de binge-watcher Black Mirror? Alors, est-ce que vous allez imposer à nos auditeurs de regarder un épisode? Ils les auront déjà tous vus. est-ce que vous allez les critiquer amèrement parce qu'ils ont binge-watché Black Mirror en un week-end?
C'est mal de binge-watcher Black Mirror, ça fait du mal. Bon, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé les 6 d'une traite sans pause pipi. Donc je me suis fait du mal. Mais franchement, non. Idéalement, il faudrait en voir un par jour, je pense, temps de digérer un peu le truc.
Mais c'est peut-être révélateur de ce que je disais au début, c'est que si vous arrivez à les binge-watcher, c'est qu'ils sont plus aussi bons qu'avant. Parce que franchement, les premières saisons de Black Mirror, ça me. Et alors surtout, il y a quand même un truc. Alors pour le coup, il y a des séries, on peut les binge-watcher. Mais ça, je vois pas l'intérêt puisqu'il y a pas de continuité narrative. Et surtout, le but normalement de Black Mirror, c'est qu'il y a une digestion hyper forte. Pour moi, c'était la série à digérer. Dire qu'il faut se le prendre dans la poire, décompresser et derrière se dire mais merde, qu'est-ce qu'il m'a raconté, qu'est-ce que ça dit de la société, où est-ce que j'en suis. Et c'était pour moi fondateur du succès, de la qualité de cette série. Si on se les bouffe tous d'un coup, c'est sympa, mais c'est des friandises, c'est plus un bonbon explosif, quoi.
Là, on en revient à la même question. Est-ce que la hype est trop forte? Et donc, le jour de la sortie des 6 épisodes, il faut les avoir absolument vus parce que tous les médias ont sorti leurs critiques de chaque épisode, les uns après les autres. Et tout le monde va en parler à la fameuse machine à café qui n'existe pas le lendemain matin ou alors il va falloir bloquer tout le monde sur Twitter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on survit à la hype Black Mirror en 2018.
C'est pareil pour toutes les séries Netflix en fait, hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de
bonne
solution.
Même, c'est pas Santa Clarica qui va bouleverser la twittosphère.
Sur les grosses séries, évidemment, on se sent obligé de tous les voir très vite et Black Mirror n'y échappe pas. Je crois qu'il n'y a pas de solution.
T'es tellement désespéré.
Ah oui, parce que j'aurais aimé aussi ne pas les binge-watcher, mais c'était impossible.
T'as été forcé.
Ouais.
Émilie, t'as parlé de Netflix qui voulait servir le client, et du coup, j'aurais voulu aborder un dernier mini-thème avec vous. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Vous aurez reconnu Heaven is the Place on Earth, la chanson la plus phare de la saison 3 de Black Mirror, parce que c'était la chanson de San Junipero, qui était sur deux personnages de femmes lesbiennes qui tombent amoureuses dans une réalité virtuelle où elles ont uploadé leur esprit. Cet épisode, il était très très feel good. Il est, pour continuer dans les anglicismes, il était bienveillant, il nous a fait chaud au cœur. Moi, j'ai eu l'impression que Hank the DJ, dans cette saison-là, saison 4, essayait de reproduire ce schéma. C'est-à-dire que quand on voyait les gens en parler ensuite, c'était vraiment bon, bah l'an dernier, il y avait San Junipero, cette année, il y a Hank the DJ. Est-ce qu'il faut vraiment maintenant avoir un épisode feel good dans la saison avec une histoire d'amour qui va rassurer tout le monde et faire se dire, bon, c'est pas si grave.
Oui et non. San Junipero avait un avantage, c'est que c'est un peu le twist de la fin de saison 3 de Lost, c'est un peu We Have to Go Back, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à avoir des trucs dark, 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 et on s'attendait à ce que ça finisse de manière catastrophique, et en fait, alors, ah, ça fait du bien. Là, on s'y attend un peu plus, sachant qu'en même temps, attention, gros spoiler, mais moi, la fin de Hank the DJ, je la trouve pas si positive. Enfin, bah, techniquement, ils sont quand même, enfin, c'est un peu une appli qui, enfin, ça pourrait être vu de manière plus négative, c'est-à-dire que ça pourrait être vu comme une façon de dire, moi, voyez, c'est l'appli dit que, donc ils vont forcément tomber amoureux. Or qu'en fait, ça se trouve, ils vont juste se détester, ils vont pas se blairer, ils vont se quitter au bout de 20 minutes. Ça, on peut pas le savoir.
Ils ont eu 1000 essais pour se quitter.
Mais non, c'est l'algorithme, les 1000 essais, ouais.
Mais ses ancêtres, leur projection la plus, voilà, sachant que Black Mirror reproduit à l'identique les personnes dans le cloud, généralement.
C'était vraiment eux, ils ont vraiment souffert, ils ont vraiment aimé.
J'ai pas
ils ont
vu
vraiment passé 5 ans moi, à devoir vivre avec une personne horrible.
Ah bah, tu vois, j'ai pas lu ça comme ça, mais bon, ça reste quand même relativement feel good.
Et San Junipero n'était pas non plus si positif que ça à la fin, malgré tout.
C'est-à-dire ?
Bah, quand même, sur la mort et enfin, ces deux personnages qui ne se retrouveront jamais vraiment, enfin, il y a quelque chose quand même qui est, à mon sens, très négatif, et ça me fait penser que l'histoire d'amour tragique, on l'a déjà eue dans la saison 2. Avec Be Right Back, donc finalement faire quelque chose de positif.
Avec l'homme cloné.
Voilà, avec Elliot Atwell et Donald Gleeson, qui se terminait très très mal. Bon, ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas continuer sur la comédie romantique, mais différemment.
Dans San Junipero, ils finissent dans un soleil couchant avec un cabriolet et la musique de Belinda Carlisle à tout va, donc c'est plutôt
beau,
positif. Ça ressemble quand même à un happy end.
Oui.
Ils sont quand même morts, quoi.
Bah, non, et puis surtout, c'est exactement l'inverse du traitement des algorithmes qu'on a dans la saison 4. C'est que là, on a des algorithmes qui ont le droit d'être heureux.
Des algorithmes joyeux.
Un algorithme joyeux.
J'aimerais savoir à quoi ressemble un algorithme. J'imagine un petit truc avec des oreilles pointues. Enfin, tu vois.
Pour finir, est-ce qu'il y a un thème particulier que vous auriez aimé que Black Mirror aborde, qu'ils n'ont pas abordé ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un épisode que vous aurez rêvé voir sur Black Mirror ?
Tu bosses pour Netflix ?
J'ai des insides. Là, il faut que je.
On va faire une minute de silence et après on va te donner une réponse.
Alors donnez-moi votre épisode préféré
ouais.
De cette saison et ensuite on verra si on extrapole.
De cette saison là.
Ouais.
Ah donc enfin ça USS Callister ouais ça c'était c'est pour
toi,
moi.
Toi c'est USS Callister.
Oui, oui. Ouais moi c'est pareil.
Toi aussi. Ouais.
Ah ouais.
Hank the DJ. Ben moi, c'était Crocodile.
Mais quelle horreur!
Je l'ai trouvé exceptionnel, je l'ai trouvé magnifique dans la manière dont il montre l'inévitabilité de notre destin à partir du moment où la technologie a pris le contrôle dans un monde pas si loin de nous.
Je trouve qu'ils n'utilisent pas assez la technologie dans l'épisode. C'est vraiment un artifice narratif. C'est,
ouais,
pas, assez, c'est pas assez fouillé.
Elle était très surutilisée, je trouve, dans cette saison 4.
Oui, c'est justement quelque chose qu'on avait discuté hors antenne, comme disent les hommes de radio, c'est que peut-être que ça devient un peu trop systématique. On a l'impression que Charlie Brooker s'est assis devant une émission techno ou devant un magazine techno. Il a dit, tiens, ce truc-là, ça va être marrant, on va le pro... Et il faudrait peut-être faire attention à ne pas que parler de technologie et à se dire aussi... comment réfléchir au futur de nos sentiments et de notre relation à l'autre.
Ah bah
et
voilà, c'est là, ce que tu veux voir dans Black Mirror.
Du coup, mais c'est bien
5.
Ça serait pas mal qu'ils se penchent un peu plus sur les problèmes de société, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, ce qui se passe les réfugiés. Comment se projeter dans l'avenir, essayer de réfléchir à la façon dont nos sociétés traitent ces gens-là, mais en se projetant vraiment dans un futur où les choses...
Il y a un épisode de la saison 3 où les militaires tirent sur des personnes sans se rendre compte que c'est des réfugiés.
Exact, ouais. C'est exact. Ouais. C'est dans la... Oui, c'est dans la précédente. C'est exact. Oui, c'est vrai, mais on pense tout de suite à la technologie et à la façon dont les militaires ont du lavage de cerveau, en fait, plus que à la façon dont le citoyen au quotidien peut réagir à ces choses-là, en fait. Peut-être que des fois, on est un peu trop dans l'exceptionnel et pas assez dans le quotidien et le banal.
Il est temps de donner la parole à notre cher public. Vous vous demandez ce qu'est devenu le cochon de la saison 1. Black Mirror vous a tellement inquiété sur les dérives des technologies que vous portez désormais un petit chapeau en aluminium sur la tête en permanence. Venez vous exprimer au micro d'un épisode des Jarrettes.
Oui, bonsoir Stéphanie. Je sais pas par où commencer. Alors moi, je crois que Black Mirror, je déguste plutôt un épisode, donc j'ai pas encore vu la dernière saison, parce que comme
désolée de vous avoir spoilé.
Comme Pierre, non, moi ça va. Je me dis toujours, si un jour je meurs, au moins je veux savoir ce qui se passe à la fin. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cheminement pour arriver jusqu'au spoiler que le spoiler en lui-même. Donc je déguste les épisodes Black Mirror un par un, et il y en a certains que j'ai pas vus parce que voilà, il faut s'en remettre parfois. Moi je pensais que peut-être, une hypothèse, peut-être que Black Mirror se permet d'être plus positif maintenant parce que elle a déjà tellement anticipé, visualisé par exemple l'arrivée de Trump ou notre repli sur nous-mêmes comme une bulle avec toutes ces technologies, qu'elle se dit on va pas aller encore dans l'anxiogène, et peut-être qu'il faudrait être un peu plus positif, un peu plus feel good, et ramener un peu plus d'humain dans les rapports, ou un peu plus décrypter les rapports humains sans forcément tomber dans la technologie ou l'effet choc que pouvaient avoir les deux premières saisons avec l'épisode sur Waldo, l'épisode sur le Premier ministre, l'épisode sur la réactivité à tout prix avec l'émission de télé-réalité. Et surtout qu'il y a eu Get Out, il y a eu The Handmaid's Tale. Alors peut-être que eux, leur angle maintenant, l'angle de Charlie Brooker, de se dire peut-être qu'on va arrêter avec... Pas forcément arrêter, mais on va se calmer avec l'effet anxiogène et on va rajouter un peu plus de feel-good, un peu plus d'humain, parce qu'on a besoin de ça aussi. Tout comme on a besoin de The Handmaid's Tale et de se dire « Oh putain, on y est !» Donc voilà.
Je suis super méga d'accord.
Ouais, on vous invite la prochaine fois.
Ça s'inscrit vraiment dans une dynamique. Je dis pas que toutes les séries américaines sont feel good maintenant, ou anglo-saxonnes en l'occurrence, mais c'est vrai que quand on pense à la série qui a marqué les gens, alors outre The Handmaid's Tale, qui est pas définitivement une série feel good, il y a This Is Us, même si son héroïne va vers la lumière. Enfin, ça c'est un autre débat. En tout cas, tend à aller mieux. This Is Us a profondément marqué, je pense moi, l'imaginaire actuel de la télé américaine. Et en gros, c'est vrai que la réalité. Trump, c'est un épisode de Black Mirror, quoi. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on essaye d'un peu contrebalancer de l'autre côté. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit.
Donc, on ira chez les bisounours dans la saison 5 de Black Mirror.
ça pourrait être cool.
Vous n'avez pas vu le temps passer et c'est normal car nous avons hacké vos cerveaux pour vous faire croire que notre podcast ne durait que 30 secondes et non pas 30 minutes. Et pourtant, c'est déjà la fin de ce podcast d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Émilie Semiramotte, merci à Jean-Maxime Reynaud et à Pierre Langlais d'avoir débattu de la daronification de Black Mirror. Merci à la technique et au public d'être venus par millions pour nous écouter ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission consacrée à Baron Noir en présence des créateurs de la série de Canal+, qui revient pour une saison 2. En attendant, pour ne rien manquer des actus de l'ACS et d'un épisode des Jarrettes, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Parfois, on fait même des blagues. À la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.